Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. C'est vendredi, 2h d'infos, nous sommes là au rendez-vous, 2h d'analyse, 2h de débat, c'est sur Europe 1, votre grand journal du soir. C'est un week-end qui va faire du bien pour des milliers d'usagers confrontés depuis 9 jours maintenant à la grève, 9 jours de galère, des interrogations dans toutes les têtes. Pourra-t-on se déplacer pour Noël, les prévisions de trafic? C'est dans un instant dans votre journal. Isabelle Millet, bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
9 jours de grève donc déjà et un impact lourd sur le tourisme, le commerce et sur les réservations d'hôtels. On va faire le point complet avec mon invité à 18h20, Didier Chenet est le président du syndicat des hôteliers. 18h30, le débat des grandes voix dans ce studio. Comment sort-on de cette crise? 19h30, on parle de Noël un petit peu quand même. Bah oui, est-ce qu'on va consommer différemment un Noël 2019 en mode de déconsommation? On en parle avec vous au 39-21, c'est votre grand journal du soir. C'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Ça monte, ils ont mis des sacs de sable là en fin de l'an de la digue, donc ça ne va rien arrêter du tout.
Le sud-ouest sous les eaux, balayé par des vents violents, menacé par des crues, déjà une victime et une vigilance rouge dans les Pyrénées-Atlantiques, 170 000 foyers privés d'électricité.
Pas d'amélioration à la SNCF ce week-end, trafic encore extrêmement perturbé.
Mais pour ceux qui prévoient de partir pour Noël, ils seront fixés dès mardi. La SNCF promet en effet d'indiquer avec certitude les trains maintenus et ceux annulés. Francine, qui doit accueillir toute sa famille, est très inquiète.
J'espère toujours que ça va s'arrêter, qu'il y aura une trêve pour ces quelques jours que tout le monde attend et pour faire des réunions de famille.
Qui a dit que les nouveaux radars tourelles étaient indestructibles?
Comme les anciens, ils sont régulièrement victimes d'actes de vandalisme.
Les Algériens ont élu un président, mais ils n'en veulent pas. Ils dénoncent un scrutin truqué, remporté par un ancien ministre d'Abdelaziz Bouteflika.
Tebboune ne sera jamais la solution. C'est un président faible, qui n'a pas de légitimité. S'il faut tenir 10 ans, tiendra 10 ans.
La réélection de Boris Johnson, qui acte la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Les partenaires européens sont enfin fixés et ils sont pressés d'en finir.
Et puis la fin de la COP25 à Madrid. Les jeunes n'ont pas obtenu du tout le signal d'espoir qu'ils attendaient.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,59% à 5 919 points.
Et on regarde du côté du ciel avec vous, Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Isabelle le disait à l'instant, de nombreux départements sont placés en vigilance. Crues, inondations, vent fort et avalanches. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et on commence donc par ces intempéries violentes. Dans le sud-ouest, elles ont fait une victime dans les Pyrénées-Atlantiques et la situation reste très préoccupante dans plusieurs départements, notamment dans la ville de Peyrorade. C'est dans les Landes où le Gave déborde. Le Gave, c'est une rivière qui a déjà fait des siennes récemment. Ronan Coquelin vient de joindre sur place Yann. Il est commerçant, très inquiet pour les heures à venir.
On a les pompiers là qui sont passés au magasin en disant prévoyez vraiment de rentrer chez vous rapidement parce que ça monte. Ils ont mis des sacs de sable là en fin de l'an de la digue, donc ça va rien arrêter du tout, vu la forte marée qu'ils annoncent. Ils ont bloqué la route, donc on peut plus reprendre l'autoroute. On a plein de clients là qui passent en me disant moi j'ai les pieds dans l'eau. Et il y a un magasin juste à côté de chez nous à Bidache où il y a les employés qui sont bloqués dans le magasin, qui peuvent pas rentrer chez eux parce que l'eau est montée et ils sont submergés.
Yann, commerçant à Peyrorade, joint à l'instant pour Europe 1 par Ronan Coquelin.
Sandrine Prioul, bonsoir.
Bonsoir.
On le disait, c'est tout le sud-ouest qui est concerné, en particulier le département des Pyrénées-Atlantiques.
Oui, vous l'avez entendu, les habitants de cette petite commune des Landes qui jouxte justement les Pyrénées-Atlantiques sont actuellement évacués en urgence, 600 personnes, parce que la crue s'annonce rapide et hors norme, pouvant aller jusqu'à 5,50 m. Les pluies qui s'abattent encore sur toute la façade du sud-ouest et les vents violents menacent une douzaine d'autres communes. On craint particulièrement la crue du Gave, entre 6h et 8h demain matin. Des bourrasques qui sont déjà allées aujourd'hui jusqu'à 147 km/h et qui ont provoqué la mort d'un homme de 70 ans. Il était dans sa voiture sur une route du Pays Basque lorsqu'il a percuté un arbre tombé sur la route. Il y a aussi déjà 5 personnes blessées à cause de ces chutes d'arbres. Des vigilances rouges et oranges, vous le disiez, qui incitent les autorités à recommander la plus grande prudence ce soir, à éviter absolument de sortir. Plusieurs préfectures sont actuellement en train de faire le point pour activer les cellules de crise, ouvrir d'éventuels gymnases pour accueillir les sinistrés. À l'heure actuelle, 70 000 foyers sont toujours privés d'électricité.
Merci pour ces précisions, Sandrine Prioul.
Et on vous tient au courant, évidemment, minute par minute avec Anissa, qui garde un œil sur ses cartes météo. Et comme chaque soir, depuis maintenant 9 jours, c'est l'autre titre à la une. On fait le point, une fois encore, sur les perturbations liées à la contestation contre la réforme des retraites.
Et oui, Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent s'était refusé à tout commentaire, a parlé cet après-midi de réforme historique pour le pays. Il a assuré que son ambition n'était n'est pas avant tout budgétaire.
Et c'est une réforme de refondation avant toute chose, de transformation de notre système et qui va donner sa pleine forme dans le temps, a dit le président depuis Bruxelles.
Et puis sur les conséquences de cette grève, Emmanuel Macron a adressé un bref message aux Français qui galèrent.
Justement, la question que nous nous posons tous les jours, c'est bah oui, combien de temps ça va durer ?
Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais on a Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Des fois, il vaut mieux la boule de cristal, vous savez.
En tout cas, sans surprise, le trafic sera encore très perturbé demain et après-demain, samedi et dimanche, avec en moyenne un TGV sur 4, un Transilien sur 6, tandis que 3 liaisons TER sur 10 seront assurées, essentiellement par autocar. Le trafic international a également perturbé tout le week-end. De côté intercité, il est prévu un train sur 5 samedi, puis un train sur 10 seulement dimanche.
Mais la nouveauté, Emmanuel, c'est qu'on en sait un peu plus, normalement, sur les fameux congés de fin d'année.
Oui, on a pu vous le révéler cet après-midi, un mardi, vous saurez si votre TGV, votre Ouigo ou votre train intercité roulera le premier week-end de Noël. Ça concerne donc tous les trains du vendredi 20, du samedi 21 et du dimanche 22 décembre. La SNCF s'engage à contacter donc tous ses clients mardi. Comment ? Vous recevrez soit un SMS pour vous dire si votre train roule ou un mail. Si votre train roule, vous êtes certain de le prendre. Ce sont des trains garanti. Si ce n'est pas le cas, vous aurez des propositions d'autres horaires sur d'autres trains. Si malheureusement votre train devait être annulé, soyons très clairs, il y en aura énormément, vous serez remboursé totalement du prix du billet. Ça peut paraître être un minimum, mais ce plan de transport demande un travail titanesque aux équipes de la SNCF. On regarde axe par axe, c'est un véritable travail d'orfèvre, dit un cadre. Notre objectif, c'est de faire rouler le plus de trains possible, ajoute un autre qui reconnaît que ça ne va pas être simple, notamment sur l'axe Atlantique et notamment sur le Paris-Bordeaux. Jusque-là, on était confiant, mais avec l'appel de la CGT à maintenir la pression, ça pourrait se tendre, reconnaît un autre cadre de l'entreprise. En ce premier week-end de vacances, la priorité va être donnée au TGV. Pour ceux qui ont des billets pour le réveillon de Noël, c'est-à-dire cette fois du 23 au 26 décembre. L'information sera disponible jeudi prochain, c'est-à-dire le jeudi 19 décembre.
On va patienter encore un peu. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Il y en a en tout cas qui sont particulièrement inquiets à l'idée d'être privés de leurs proches pour ces fêtes de fin d'année. Ce sont les personnes âgées. Bien sûr, Noël est toujours un moment très attendu. Francine, par exemple, elle a 84 ans. Elle a tout préparé, mais elle ne sait pas, la pauvre, si sa famille va pouvoir la rejoindre à Paris comme prévu.
J'attends, j'espère. J'ai des enfants qui doivent venir de Nantes. Dans quelles conditions, je ne sais pas. J'ai fait venir du foie gras. Et avant de commander mon saumon, j'attends de voir ce que ça donne. J'espère toujours que ça va s'arrêter, qu'il y aura un peu de raison, qu'il y aura une trêve pour ces quelques jours que tout le monde attend et tout le monde espère pour faire des réunions de famille. Parce que si je suis obligée d'annuler mon repas, où on sera quand même 11, ça sera très ennuyeux.
Francine, rencontrée cet après-midi à Paris par Caroline Baudry. Et pour en revenir à ceux qui galèrent faute de transport en commun, ce matin sur Europe 1, la patronne de la RATP a promis que les usagers seraient indemnisés. La RATP qui annonce ce soir encore de grosses perturbations avec à Paris 9 lignes de métro fermées demain et un trafic extrêmement réduit pour dimanche.
Et du côté des enseignants maintenant, comment ça se passe ? Plusieurs syndicats ont été reçus aujourd'hui par le ministre de l'Éducation.
Oui, l'UNSA, le deuxième syndicat du primaire notamment, qui est ressorti de cette rencontre avec la satisfaction d'avoir été entendu. C'était une réunion dense et franche, comme nous aurions dû en avoir depuis des mois, dit son secrétaire général, avec des enjeux précis posés sur la table, mais il nous manque encore des précisions. Et nous maintenons notre appel à la mobilisation mardi. En ce moment, Jean-Michel Blanquer est avec Édouard Philippe à Nancy à la rencontre justement des enseignants.
On suivra ça évidemment, on vous donnera le résultat à 18h30. On sera sur place dans le journal de 19h précisément avec Charlotte Bachelet.
Et par ailleurs, la production et l'approvisionnement en carburant restent assurés normalement, c'est ce qu'affirme le gouvernement, alors que 4 des 8 raffineries de métropole sont touchées par la grève.
Il est 18h08 sur Europe 1, la suite du journal Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Un homme qui menaçait des policiers avec un couteau a été tué ce matin par des fonctionnaires de police sur le parvis de la Défense, près de Paris. Il s'agirait, selon les informations d'Europe 1, d'un Marocain de 42 ans qui se serait échappé d'un hôpital psychiatrique. À ce stade, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête.
Mais on les disait indestructibles, et ben c'est raté. Un nouveau radar tourelle, nouvelle génération, détruit en Ardèche quelques heures seulement après son installation.
Bonsoir Aude Leroy.
Bonsoir.
Et visiblement, ils sont tout aussi facilement vandalisables, ces nouveaux radars, que les anciens.
Oui, c'est une véritable hécatombe qui touche toute la France, même en Guadeloupe la nuit dernière. Alors les radars tourelles sont perchés sur un mât d'environ 3 mètres de haut, fixés au sol par un support qui est coulé dans du béton. Sauf qu'on s'aperçoit à l'usage que l'épaisseur du mât le métal, est trop fin et que donc le mât est facilement découpable avec une scie à métro. Il peut même plier sous les coups d'un véhicule, oui. voire même carrément arraché au béton, comme ça a été le cas récemment dans le Var. Alors, la tête du radar tourelle est quant à elle entourée d'une coque en plastique. C'est ce qu'explique le blog Radar Auto, qui est très bien renseigné. Donc, si vous déposez au pied du mât un pneu en feu, il fait fondre cette coque, l'enflamme. La chaleur, elle, finit par tordre le mât, qui au bout d'un moment cède et fait tomber à terre la cabine. On l'a vu en Charente-Maritime ou dans le Morbihan notamment. Alors, c'est pas terminé. Les vitres des radars tourelles, elles, ne résistent ni aux balles ni au plomb. Plusieurs cabines ont été retrouvées, la porte grande ouverte. Donc, c'est une porte trop vulnérable. Alors, je vous rappelle quand même que le prix d'un radar tourelle tourne autour de 32 000 euros pièce. La facture des dégradations du matériel uniquement tourne autour de 80 millions d'euros, en tout cas pour le moment.
Et donc, ça n'avait pas été testé en amont. Voilà.
Pas du tout indestructible.
Voilà
tout
le résultat. Merci,
Audeloroy.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, ça commence mal hein, pour le nouveau président algérien, à peine élu, déjà contesté dans la rue.
Et puis la réélection de Boris Johnson, plutôt bien accueillie par ses partenaires européens, pressée d'avancer.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Le lendemain de vote en Algérie, à peine élu, le nouveau président désavoué par la rue. Hein.
Abdelmadjid Tebboune, qui est un ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, tout ce dont ne voulaient pas les Algériens qui dénoncent un vote truqué.
Quelques heures donc après l'annonce de son élection, une marée humaine véritablement a manifesté cet après-midi dans les rues de la capitale. Alger, Jean-Jacques Héry, bonsoir, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1.
Oui Isabelle, les ruelles et les escaliers du centre-ville sont noirs de monde. Il est difficile de se frayer un chemin au milieu d'une foule qui inexorablement, inlassablement, rejette Abdelmadjid Tebboune, ce nouveau président, ancien Premier ministre, qu'elle dit tout simplement ne pas être le sien.
Ça fait 40 ans qu'il est dans le pouvoir. Il a été chef d'ARA, sous-préfet, il a été préfet. Il a été 15 ans ministre. Tebboune ne sera jamais la solution. Parce que c'est un président aujourd'hui, vis-à-vis des Algériens, il n'a pas été élu. C'est un président faible, c'est un président qui n'a pas de légitimité. Comment il va réformer s'il n'a pas l'adhésion du peuple? Comment il va faire? S'il faut tenir 10 ans, il tiendra 10 ans.
Sous les hélicoptères qui survolent la ville, la rue gronde, la rue Oni, les militaires, les généraux à la poubelle chantent-elles à tue-tête. Partout, on voit des forces de l'ordre anti-émeute, des policiers en civil sur les trottoirs. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans cette manifestation pacifique, presque sans aucun trouble pour le moment, on décèle aussi beaucoup de joie avec des sourires sous les drapeaux algériens qu'on brandit fièrement. Les gens ont l'impression de vivre un moment historique.
Les gens se libèrent vraiment de tout ce qu'ils avaient en eux. C'est le moment ou jamais. On n'attend pas de résultats immédiats, il ne faut pas rêver, on n'est pas naïf non plus. Mais je pense que les générations d'après verront les conséquences.
Quelque chose s'est levé, nous disent les manifestants. On n'a plus peur des arrestations, on ne se taira plus. Le dialogue avec le nouveau président, vous l'entendez, s'annonce déjà très compliqué.
Effectivement, Jean-Jacques Héry, envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Lendemain de vote aussi en Grande-Bretagne. Après la victoire écrasante de Boris Johnson aux législatives, les Britanniques s'apprêtent à tourner pour de bon le dos à l'Union européenne fin janvier.
Les marchés ont accueilli d'ailleurs avec euphorie cette victoire, hein, rassurés d'avoir enfin un peu de visibilité. On va y revenir avec Didier François.
Oui, et soulagement aussi hein, du côté des futurs ex-partenaires européens. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Les Européens sont pressés en fait, de passer à la suite. Hein.
Oui, cela fait des mois qu'ils attendent de la clarté en provenance de Londres. Ils n'en pouvaient plus de vivre au rythme de l'indécision du Parlement britannique. Pour le président Macron, le vote d'hier acte le Brexit une bonne fois pour toutes.
Je veux aussi dire à nos amis et alliés britanniques quelque chose de très simple. Vous avez entériné le choix fait il y a un peu plus de 3 ans par ces élections général. Mais vous ne quittez pas l'Europe. Vous restez à nos côtés et nous restons aux vôtres.
Alors désormais, l'Union européenne réfléchit à sa stratégie pour la suite. Le 31 janvier, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers. Et sans doute, dès les jours suivants, une nouvelle négociation va commencer sur ses futures relations avec les 27. La chancelière allemande Angela Merkel avertit déjà.
Pour nous, les pays de l'Union européenne, cela veut dire que nous avons désormais un concurrent à notre porte. Un concurrent qui va vouloir montrer au monde ce dont il est capable. Peut-être que ça pourra nous donner un coup de fouet, nous pousser à être plus rapides.
Les Européens veulent éviter que ce concurrent à leur porte soit déloyal sur les normes, sur l'environnement, sur le social. Ils l'ont réaffirmé lors de leur sommet à Bruxelles. Ils seront extrêmement vigilants là-dessus dans les mois qui viennent.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et après Bruxelles, on file à Madrid, où s'achève ce soir la COP25.
Virginie Salmen, vous êtes en direct. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
La jeunesse en particulier est très déçue. Elle considère que ce grand rendez-vous n'a pas répondu à ses attentes et elle l'a fait savoir tout au long de la semaine et encore aujourd'hui.
Oui, 300 jeunes exaspérés de l'absence de prise de conscience, selon eux, des négociateurs ont manifesté à l'intérieur de la COP. Ça, c'est un incident qui a eu lieu mercredi parce qu'en théorie, il est interdit de manifester ici. Ils ont été évacués mercredi. Certains se sont vus confisquer leur badge d'accès. La colère n'est pas retombée. Et donc aujourd'hui, un sit-in de plusieurs centaines de jeunes du monde entier a été autorisé. Parmi eux, Fabienne, venue avec la délégation de son université parisienne.
Ce qui est bien, c'est de voir quand même qu'il y a la société civile qui est là, qui veut que ça bouge. Même en fait, les négociateurs nous disent, bah ouais, il faut que ça vienne du peuple pour que ça bouge et que ça remonte ensuite, quoi.
Vous dites ça?
Ouais. Que c'est pas l'ONU qui prend des décisions, mais déjà c'est les négociateurs, les décisions viennent de leur pays et les décisions des pays, ça vient d'où? Bah de la société civile qui fait pression, quoi.
Mais le décalage n'a jamais été aussi grand entre les citoyens et les négociateurs. Voilà ce que ressentent beaucoup de ces jeunes. Bruno, qui anime des ateliers pour expliquer le changement climatique ici à la COP, a été frappé.
Absolument tous les politiciens qui sont passés par notre atelier, qui sont venus là pour négocier des avancées pour le climat, ne savent pas comment se dérègle le climat.
Donc ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas lu les rapports des scientifiques.
C'est ça, ils sont au courant de ce qu'ils ont à défendre, mais pas pour quels enjeux. Et on a trouvé ça vraiment triste. Je pense que c'est ça aussi qui nous déçoit.
Voilà, cette pression ne semble toujours pas toucher les négociateurs qui ont les pires difficultés à se mettre d'accord sur le texte final de cette COP.
Merci beaucoup Virginie Salmen, envoyée spéciale d'Europe 1 à Madrid.
Isabelle Millet de retour avec de nouvelles infos à 18h30, merci.